Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 5 octobre 2022. En direct de Washington, Idriss Assebudia. Pour commencer, les titres. Burkina Faso, le médiateur Mahamadou Issoufou, totalement satisfait de la mission de la CDAO hier à Ouagadougou. Guinée, la défense réclame des égards pour l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara au procès du massacre de 2009. Mali, le président russe Vladimir Poutine promet au colonel Assimi Goïta des engrais russes bloqués à cause des sanctions occidentales depuis l'offensive en Ukraine. Ouganda, le très influent fils du président Museveni perd le commandement des forces terrestres après un tweet ayant provoqué un tollé au Kenya. La Corée du Sud et les États-Unis tirent 4 missiles après le lancement nord-coréen d'un missile balistique au-dessus du Japon. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, une délégation de la CDAO a quitté hier Ouagadougou après une visite dans le pays qui vient de connaître son deuxième coup d'État en 8 mois avec le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Elle a rencontré le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. L'objectif était que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec la CDAO. Mais c'était une visite sous tension parce que de nombreux Burkinabés étaient descendus dans la rue pour empêcher cette visite. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La délégation de la CDAO est arrivée à Ouagadougou. Elle était composée de Suzy Carla Barbosa, la ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, du président de la commission de la CDAO, Omar Aliou Touré, et du médiateur de la CDAO pour le Burkina, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. La délégation n'a pas pu quitter l'aéroport car de nombreux manifestants avaient érigé des barricades un peu partout dans la ville pour s'opposer à cette rencontre avec la CDAO. C'est donc à l'aéroport que la rencontre a pu se tenir. Le capitaine s'est rendu là. À l'issue, le médiateur Issoufou a rappelé l'engagement de la CDAO aux côtés du pays afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours, a-t-il indiqué. Mahamadou Issoufou a dit être totalement satisfait de l'entretien avec le capitaine Traoré. Selon la présidence du Faso dans son communiqué, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un appel à la CDAO et aux médiateurs afin qu'ils accompagnent le pays, dit-il, dans sa quête d'un meilleur avenir pour le peuple burkinabé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi au chef de la junte malienne, Assimi Goïta, qu'il souhaitait faire don au Mali des engrais russes bloqués par les sanctions occidentales depuis le début de l'offensive de Moscou en Ukraine. Le point avec Ginny Niwa.
L'importance de réaliser l'initiative de la Russie de transférer gratuitement 300 000 tonnes d'engrais russes bloquées dans les ports européens en raison de sanctions vers les pays qui en ont besoin a été soulignée, a déclaré le Kremlin dans un communiqué après un entretien au téléphone entre les deux dirigeants. Monsieur Poutine et Goïta ont convenu de renforcer la coopération russo-malienne dans le domaine de la sécurité pour éliminer les groupes terroristes, a indiqué le Kremlin. Sur Twitter, Monsieur Goïta s'est contenté de dire qu'ils se sont mis d'accord pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économiques et sécuritaires et a salué leur partenariat, dit gagnant-gagnant, fondé sur le respect mutuel. Le soutien de Moscou comprend un grand nombre d'agents au sol que le Mali décrit comme des formateurs militaires. Le dirigeant russe a aussi invité M. Goïta au prochain sommet Russie-Afrique qui doit se tenir à Saint-Pétersbourg à l'été 2023.
Ajoutons qu'un pilote russe a été tué mardi dans le nord du Mali quand son avion récemment livré à l'armée malienne s'est écrasé près de Gao. C'est ce qu'a indiqué un responsable militaire sous couvert d'anonymat. Un personnel navigant au sol a aussi été tué dans l'accident et 10 autres personnes ont été blessées, 2 civils et 8 militaires, dont 2 grièvement, a également affirmé l'état-major dans un communiqué diffusé mardi soir, sans évoquer la nationalité des victimes. Le bilan est plus lourd, a assuré à l'AFP une source diplomatique. À ce stade, les circonstances tendent à écarter toute action hostile sur l'appareil, selon l'armée qui a dépêché sur place une mission d'enquête. En Guinée, la défense de l'ex-président Moussa Dadis Camara a réclamé hier des égards pour son client et son placement en résidence surveillée plutôt que son maintien en prison. C'était lors du procès du massacre du 28 septembre 2009 qui a repris hier à Conakry, Nanik Talani.
Maître Pépé Antoine Lama dit craindre pour la sécurité de son client incarcéré à la prison centrale de Conakry, contestant la détention de son client. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné de l'histoire de la Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara a dirigé ce pays, alors un peu d'égard pour lui. À défaut de le mettre en liberté, il faut aménager une villa pour lui, a plaidé l'avocat. Dadis Camara est renvoyé devant la cour criminelle comme tous les autres. Il sera traité au même titre que les autres, a répondu le procureur Al-Gassimou Diallo. La cour n'a pas tranché et devrait se prononcer ultérieurement. La défense du lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba Diakité, lui aussi incarcéré, a demandé son évacuation sanitaire vers le Sénégal, d'où il a été arrêté puis extradé. Le parquet a fait incarcérer les accusés encore libres la semaine dernière, à la veille du procès. Moussa Dadis Camara vivait depuis 2010 en exil au Burkina Faso et il était rentré quelques jours avant le début du procès. Dadis Camara et une dizaine de co-accusés répondent du meurtre d'au moins 157 personnes et de 109 viols lors d'un rassemblement de l'opposition le 28 septembre 2009.
En Ouganda, le fils du président Yoweri Museveni n'est plus chef des forces terrestres du pays. Muhoozi Kainerugaba a été remplacé à ce poste quelques heures après qu'un de ses tweets a provoqué un tollé au Kenya, Abdourahmane Dia.
C'est le lieutenant-général Karanja Muhanga qui a été nommé commandant des forces terrestres selon un communiqué du ministère de la Défense en remplacement de M. Muhoozi Kainerugaba. Le ministère a aussi annoncé que le président Museveni avait promu son fils de 48 ans au rang de général. L'annonce du ministère de la Défense est intervenue peu après que M. Kainerugaba a déclenché un tollé en tweetant qu'il était prêt à envahir le Kenya. Le ministère n'a pas dit si son remplacement est lié à son tweet. Il ne nous faudrait pas, à nous, mon armée et moi, 2 semaines pour capturer Nairobi, a-t-il déclaré lundi soir dans ce tweet avant de faire volte-face dans un second temps. Je ne battrai jamais l'armée kenyane parce que mon père m'a dit de ne jamais le tenter. Donc nos gens au Kenya devraient se détendre, a-t-il dit. Le tollé occasionné sur les réseaux sociaux a poussé le ministère ougandais des Affaires étrangères à publier une déclaration disant son engagement envers le bon voisinage et la coexistence pacifique avec le Kenya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé ce mercredi 4 missiles sol-sol vers des cibles en mer au lendemain du tir par Pyongyang d'un missile balistique à portée intermédiaire qui est passé au-dessus du Japon. Une première en 5 ans, Michel Joseph.
En réaction à ce tir nord-coréen, Tokyo avait activé son système d'alerte et demandé aux habitants de certaines régions de se mettre à l'abri. Selon l'état-major sud-coréen, les armées sud-coréennes et américaines ont tiré mercredi chacune 2 missiles vers la mer du Japon. Mardi, des avions de combat sud-coréens et américains avaient déjà mené des exercices de frappe de précision, selon Séoul, avec le largage de bombes sur une cible virtuelle dans la mer Jaune par 2 avions de combat sud-coréens F-15K. Dans une interview à la chaîne CNN, le porte-parole du Conseil national de sécurité américain, John Kirby, a indiqué qu'il s'agissait de réponses aux provocations du Nord pour nous assurer que nous pouvons démontrer nos propres capacités et nous assurer que nous avons les capacités militaires prêtes. M. Kirby a ajouté « Il ne faut pas en arriver là ». Nous avons clairement fait savoir à Kim Jong-un, le leader nord-coréen, que nous sommes prêts à nous asseoir à la table sans condition préalable. La Corée du Nord, qui a adopté une nouvelle doctrine rendant irréversible son statut de puissance nucléaire, a intensifié cette année ses tirs et a lancé un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. Le tir de mardi était le 5e en 10 jours.
En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a revendiqué mardi soir des avancées puissantes de son armée dans le sud de son pays, évoquant des dizaines de localités reprises. Il a remercié le président américain Joe Biden pour le soutien militaire continu des États-Unis, déterminante dans cette grande contre-offensive de Kiev. Loretta Lynn, icône de la musique country, est morte mardi à l'âge de 90 ans, pionnière du genre, etc. Était rendue célèbre par ses textes relayant les problèmes rencontrés par les femmes et longtemps passés sous silence par la société. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, Olam Agri, un groupe agro-industriel de Singapour, prévoit d'investir 100 milliards de francs CFA dans les filières coton et caoutchouc au cours des trois prochaines années, selon une note d'information publiée par l'entreprise. Implanté en Côte d'Ivoire depuis 1994, Olam Agri opère aussi dans les secteurs de la noix de cajou, du cacao et du café. Le groupe dispose de 12 usines et emploie plus de 5000 personnes dans le pays. La modernisation technologique des services publics en Afrique s'est considérablement améliorée au cours des 6 dernières années. Les Nations Unies listent désormais 16 pays d'Afrique les plus avancés en matière de gouvernement électronique contre 14 en 2020. Le Rwanda a remplacé le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire et la Namibie ont rejoint le peloton de tête. Elon Musk a proposé à Twitter lundi de racheter le réseau social au prix convenu en avril, d'après des informations de presse, à 2 semaines du procès prévu entre les deux parties sur cette acquisition mouvementée. La cotation de l'action Twitter a été suspendue hier mardi à la Bourse de New York en attendant des informations après un article de Bloomberg qui a révélé cette nouvelle offre de rachat du patron de Tesla.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite ce soir des matchs de la troisième journée de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, désormais entraîné par Graham Potter, Chelsea d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Hakim Ziyech doit impérativement l'emporter ce mercredi lors de la troisième journée contre l'AC Milan. Il faut cette victoire aux Blues pour conserver un espoir de voir les huitièmes. La Juventus cherche à rebondir face au Maccabi Haïfa. Après un début de saison difficile, le Dynamo Zagreb, deuxième grâce à sa victoire de prestige contre Chelsea, se déplace à Salzbourg. Le Paris Saint-Germain se prépare à un déplacement périlleux à Lisbonne face au Benfica, auteur d'un excellent début de saison. Le Real Madrid, leader du groupe F, reçoit au Bernabeu le Shakhtar Donetsk. Du Burkinabé, Franck Lassina Traoré. Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez est largement favori pour la réception de Copenhague pour conforter son avance dans la poule G.
Cette troisième journée de la Ligue des Champions a débuté hier mardi.
Le Bayern Munich poursuit son parcours sans faute, surclassant à domicile les Tchèques du Victoria Plzeň 5-0 avec un but et une passe décisive du Sénégalais Sadio Mané, désigné homme du match. Le FC Barcelone de l'Ivoirien Franck Kessier a chuté contre l'Inter du portier camerounais André Onana 1-0 à Milan lors de l'une des grosses affiches de cette troisième journée de Ligue des Champions et glisse à la troisième place du groupe C derrière le club italien et le Bayern Munich, solide leader. Liverpool a battu les Glasgow Rangers 2-0, dont un but sur pénalty de l'Égyptien Mohamed Salah. L'Olympique de Marseille a étrié le Sporting Portugal 4-1. Devant un stade Vélodrome à huis clos, le Congolais de l'OM, Chancel Mbemba, a été auteur d'un but.
Ici en NBA, les managers généraux voient les Bucks remporter le titre.
C'est ce qui ressort d'un sondage annuel de la Ligue nord-américaine de basket réalisé auprès des managers généraux des 30 franchises en lice. L'enquête publiée sur NBA.com a révélé que les Milwaukee Bucks de Gianni Antetokounmpo, sacrés en 2021, sont considérés comme les favoris pour le championnat 2023 avec 43% des suffrages. L'an passé, ils s'étaient inclinés en demi-finale de conférence Est face aux Celtics, finalistes du championnat, battus par Golden State. Les Warriors, tenants du titre, ont recueilli 25% des voix, tandis que les Los Angeles Clippers arrivent en troisième position avec 21% devant Boston, 11%.
Merci, Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 a repris mardi à Conakry. Il s'était ouvert mercredi dernier pour juger l'ex-président Moussa Dadis Camara et ses 10 co-accusés du meurtre d'au moins 157 personnes et de 109 viols lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry. En dehors des victimes et des familles, plusieurs ONG de défense des droits humains suivent de près ce procès attendu depuis 13 ans. Nani Talani a joint à Conakry Élise Kepler, directrice adjointe de l'ONG Human Rights Watch.
Ce procès est extrêmement important pour les victimes qui ont souffert et que c'est nécessaire d'avoir la justice. Il n'y avait jamais un procès pour les crimes les plus graves en Guinée. Donc c'est une opportunité pour faire la justice et assurer de donner un message que ces crimes ne sont pas acceptables.
Qu'attendez-vous de ce procès?
Nous voulons et nous espérons pour un procès qui est équitable et où les victimes peuvent participer dans le procès. C'est extrêmement important que les accusés sont là et que c'est un procès qui est crédible. Sinon, ce ne serait pas la justice. Nous voulons quelque chose qui est une vraie justice pour les victimes qui ont attendu un procès pendant si longtemps, 13 ans, d'avoir les accusés devant un tribunal. Human Rights Watch, nous ne sommes pas les juges, nous ne sommes pas les enquêteurs criminels. Donc, c'est vraiment pour la justice de faire la recherche pour ça, pour le procédure criminelle.
Que pensez-vous de l'emprisonnement de certains hauts accusés comme Dadis Camara?
Oui, c'est une grande étape pendant la dernière semaine où il y avait 3 inculpés qui étaient mis en détention et il y avait de grands soucis qui ne serait pas là pour le procès. Ça, c'est Dadis Camara et aussi Claudie et Thierry Burrow. Dadis était un ancien président. Thierry Burrow et Pivi étaient l'ancien ministre. Et ils sont les accusés plus connus, vraiment. Ils étaient mis en détention pour être devant le tribunal. C'est important que la détention est pour les procédures. Donc, moi, je ne sais pas exactement les détails pour ça. C'est vraiment quelque chose que les victimes ont voulu et c'est important, très important d'avoir les accusés devant le tribunal et pas dans une autre location.
Que faites-vous pour aider les victimes et leurs familles?
Nous avons parlé avec les victimes avant le procès et c'était clair qu'ils voulaient le procès et qu'ils pensaient que c'est très important d'avoir les accusés devant le tribunal. Aussi, il y a un fonds d'assistance pour les victimes et ce serait important que les victimes aient l'accès au fonds pour avoir l'assistance. J'ai appris qu'il y avait jusqu'à maintenant des disbursements du fonds, donc je pense que c'est très important de considérer l'assistance que le fonds peut donner aux victimes. Et aussi que les victimes peuvent continuer et participer dans une vraie façon dans le procès. Ils ont les parties civiles qui sont les victimes, ils ont leurs avocats et c'est important qu'ils étaient là et ils ont fait des débats pendant le procès.
Élise Kepler, directrice adjointe de Human Rights Watch, une organisation de défense des droits humains. Au Togo, les villages riverains du fleuve Mono, dans le sud du pays, connaissent des inondations. Les lâchers du trop-plein d'eau du barrage Nangbeto, en amont, ainsi que les récentes pluies diluviennes en sont la cause. Certains habitants sont obligés de quitter leur village. Des écoles sont fermées et les champs dévastés dans la zone. Un reportage de notre correspondant Kossi Wusu.
C'est l'inquiétude qui se lit sur le visage des habitants de la localité de Batono, village situé au bord du fleuve Mono, frontalier du Bénin voisin, dans la préfecture des Lacs. Les dernières précipitations ont fait monter les eaux. Kodem Kodjo raconte.
L'inondation est à un niveau très élevé. Nous sommes même dans l'inquiétude pour les jours à venir. L'eau a dépassé le niveau du genou. Donc il y a des écoles qui souffrent amèrement, puisqu'il y a des élèves qui ne peuvent pas arriver, puisque pour aller chez eux, il faut avoir l'eau jusqu'au niveau du nombril. Même les enseignants n'ont pas pu regagner leur poste, puisque l'eau a inondé la voie.
Un peu plus au sud, dans le village d'Azimé-Dossou, tous les habitants ont été déplacés. Selon le chef du village, Akako, ils ont presque tout perdu.
J'ai un grand champ d'arachide de manioc qui est inondé. J'ai laissé les quelques-uns, j'ai enlevé les quelques-uns. J'ai fait ça pour que si ça produit, je peux avoir à vivre là-dedans. Mais maintenant, l'eau a pris tout. C'est une perte comme je n'ai rien retiré dedans.
Pour Agossa Oboubé, la situation est intenable pour les femmes de ce village.
Nous vivons des moments difficiles. Même pour la nourriture, c'est très compliqué pour nous, car nous ne travaillons plus. Nous n'arrivons plus à faire nos activités habituelles comme on le faisait avant pour subvenir à nos besoins et s'occuper des enfants.
Les habitudes sociales comme les mariages traditionnels ou les enterrements se font aussi difficilement si elles ne sont pas tout simplement arrêtées. Kodjo Kodem.
J'ai assisté à un enterrement à Gomesiva le samedi passé. C'est avec une motopompe qu'on a pu dégager l'eau de la tombe rapidement. On a mis le cercueil rapidement, on a mis la terre sur le cercueil. Donc il y a des milieux où on ne peut pas faire l'enterrement dans des cimetières. Par exemple, à Bâtonneau, on doit faire un enterrement le week-end prochain. Ils ont annulé l'enterrement. Ils ont dit quand l'eau va se retirer, ils vont encore donner une autre date.
La météo ne va pas arranger les choses dans les jours à venir. Les prévisions annoncent encore d'abondantes pluies. Dossa Kodjo, Daniel du village de Azimé-Dossou, appelle à l'aide.
Nous demandons de l'aide. Nous n'avons pas besoin d'argent, mais de vivre comme le riz, le maïs, de la farine de manioc, de l'huile. Ça va beaucoup nous aider.
En attendant que la bonne volonté se manifeste, les riverains du fleuve Mono implorent la clémence du ciel pour que les pluies se raréfient un peu. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Maroc, une annonce passée inaperçue aura des conséquences pour les exilés. Le directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, Khalid Zerouali, a indiqué qu'il n'autoriserait plus la présence de campements dans les forêts pour la propre sécurité des migrants. Conséquence directe de l'aide financière de 500 millions d'euros sur 7 ans que l'Union européenne promet au Maroc dans la lutte contre l'immigration clandestine. Un reportage de notre correspondant à Tanger, Robin Dussen.
Ici, c'est le premier caniveau qu'on dort. Du coup, il y a des arbres piquants qui sont ici. Après, on essaie de se débrouiller pour dormir ici. Pour se cacher, pour que la police ne nous voit pas.
Quelques cartons posés à même le sol, glissés sous une dalle en béton, des bâches en plastique, des couvertures pour les plus chanceux. C'est dans ces conditions qu'Adama, 27 ans, et une quinzaine de personnes dorment depuis leur arrivée à Tanger il y a un peu plus de 3 mois.
On fuit la police s'il nous voit dans les maisons, il nous fait repartir dans la capitale. On ne peut pas vivre aux villes parce que les Arabes ils nous dénoncent, la police vient nous attraper et puis ils nous fatiguent. Et du coup, il y a beaucoup de mes frères qui vivent ici, ils ont fait couler leur sang.
Adama n'a pas attendu l'annonce de Khalid Zerouali, le monsieur immigration au Maroc, pour prendre ses précautions. Lui et ses compagnons alternent entre passer la nuit dans la forêt et se cacher dans les caniveaux d'un terrain vague jonché de déchets. Nous sommes à la fin de l'été et ces jeunes Sénégalais, tous candidats à l'exil, affichent déjà une mine tirée.
Je pense que l'hiver, ça se rapproche bientôt et ça va être très dur pour nous. Parce que du coup, le sol va se mouiller. Il y a beaucoup d'insectes, des animaux forestiers qui vont sortir pour nous déranger. Et on sera très fatigué sur l'hiver.
Mais en même temps, vous n'avez pas le choix.
On n'a pas le choix.
Épuisés par la nuit, ces migrants guettent les patrouilles de police du matin et occupent une petite maison laissée à l'abandon le jour. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas non plus de sanitaire, mais un peu de répit. De quoi s'accrocher pour Moustapha.
Normalement,
chaque jour, on fait de notre mieux. On
ne se
décourage pas. On ne lâche pas. On essaie de trouver des solutions. Et quand la police vient, c'est assez souvent, on se cache dans des sortes de bunkers avec nos amis et notre famille, ou alors on court ailleurs.
Une vie à se cacher et à craindre les autorités pour ces Sénégalais, mais aussi pour de nombreux Maliens, Guinéens et Camerounais qui peuplent les forêts et bosquets de Tanger. L'exode qui a quand même pour l'instant un goût amer pour Jean-Paul.
Je ne comprends pas cette vie, quoi. Je ne comprends pas. On est tous déçus.
Arrivé il y a 4 mois, il ne cache pas sa désillusion, mais essaie de s'accrocher à son rêve.
Je vois une seule option, c'est rentrer en Europe. Quelles que soient les difficultés, la souffrance, mais c'est tellement dur. Chaque jour, ça devient de plus en plus difficile.
Comme Adama, Mustapha et Jean-Paul, ils sont des centaines de migrants subsahariens à vivre dans les forêts du Maroc, au sud dans la région de Laayoune, non loin des îles Canaries, au nord dans la région de Tanger, tout proche des côtes andalouses, ainsi que près des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Robin Dussène à Tanger pour VOA Afrique.
Les migrants africains venus de Libye et hébergés par le Rwanda se déclarent toujours hantés par la misère de la Libye 3 ans après l'avoir quittée. Même s'ils se sentent mieux, ils souhaitent par ailleurs trouver des pays d'accueil pour un séjour permanent. Les détails avec Jean Damascène Manichimwe.
C'est l'heure du déjeuner pour les migrants du camp de transit de Béchora à une cinquantaine de kilomètres. Au sud de Kigali, la capitale rwandaise. Quoique la vie se soit améliorée par rapport à la situation qu'ils vivaient en Libye, ils sont loin d'oublier ce qu'ils ont vécu. C'est le cas d'Aboubakar Ishaka Abdul Karim, 35 ans et soudanais d'origine.
Moi j'habitais au Darfour. Quand la guerre civile a éclaté en 2003, tout notre village a été incendié et les gens ont été découpés. À l'époque j'étais âgé de 17 ans. J'ai vu ce drame de mes propres yeux et je ne peux jamais l'oublier. Notre famille a été dispersée, chacun de son côté. Par chance, nous nous sommes retrouvés après 3 mois. Et malheureusement, mes 2 petits frères, mon oncle et mon grand frère avaient été tués.
Ce témoignage d'Aboubakar est partagé par de nombreux autres migrants comme Chulom, une Érythréenne arrivée au Rwanda en 2019.
La vie de Libye était très dure. Il m'est difficile de vous l'expliquer maintenant car j'ai passé 3 ans dans les ténèbres de ce pays. À part l'emprisonnement, nous avons été violés. Ils violaient même les femmes enceintes. J'ai tenté de traverser illégalement la mer, mais je n'ai pas réussi. Attrapée, j'ai été emprisonnée pendant 10 mois. La vie était impossible dans une prison souterraine très froide. C'était une vie pénible. On nous donnait de la nourriture, par exemple, juste à côté d'une fosse qui servait de latrine à nous tous. Et nous étions très nombreux. Était autorisé à sortir de la prison celui qui devenait trop maigre, 28 kilos pour une fille et 35 pour un garçon. Et être libéré n'était rien d'autre qu'être expulsé sans savoir où aller, sans téléphone de secours, par hasard, tu trouvais de l'aide.
Pour briser l'ennui, au camp de transit, certains s'initient à l'informatique, tandis que d'autres se préparent à passer des tests d'obtention d'un permis de conduire automobile, ce qui ranime à eux l'espoir de bien vivre.
Nous menons une vie meilleure au Rwanda. La paix et la sécurité sont totales. C'est une vie calme, rien ne nous tourmente. Le climat est très bon. Nous sommes bien nourris. Les Rwandais s'aiment beaucoup. Vraiment, je n'ai rien contre le Rwanda.
Pour Marie-Solange Kaïsiré, la ministre rwandaise ayant des réfugiés dans ses attributions, le Rwanda continuera de donner sa contribution jusqu'à ce qu'une issue définitive aux problèmes des migrants soit trouvé.
Tant que le problème est toujours là, nous devrons renouveler notre contrat. Quand on commençait en 2019, c'était 2 ans. À l'échéance de ce contrat, nous avons signé un autre de 2 ans. Au terme de ce contrat, nous examinerons comment signer un nouveau contrat si nécessaire.
Jusqu'à maintenant, le Rwanda a accueilli au total plus de 1200 migrants venant essentiellement du Soudan, de l'Érythrée, de la Somalie, du Tchad, du Soudan du Sud, du Cameroun et du Nigeria. Jean Damascène Manichimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idriss Asteloudia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.